France Inter.
Qui êtes-vous donc ?
Je suis votre pire cauchemar.
Non, mon pire cauchemar, c'est de me réveiller sans mon pénis.
D'accord, je ne suis pas votre pire cauchemar, mais je suis en deuxième position.
Bonjour Hervé Mazurel.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne, co-directeur de la revue Sensibilité. Vous êtes donc un historien un petit peu particulier puisque vous vous intéressez tout particulièrement à l'histoire des corps et des imaginaires. Pendant le confinement, vous avez eu cette idée saugrenue avec un groupe de chercheurs et de psychanalystes de saisir à l'instant T une matière bien spécifique pour prendre le pouls de la France, les rêves des uns et des autres dans cette période troublée. Alors pour commencer, Hervé Mazurel, comment est-ce qu'elle est née justement cette idée de collecte des rêves de confins, comme vous l'appelez, et comment est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez procédé ?
Alors on n'était pas les premiers, on avait entendu parler d'une collecte qui se préparait au Brésil. Des collègues brésiliens nous avaient dit qu'ils étaient en train de faire ça, et puis j'ai travaillé surtout avec une collègue qui est psychologue, clinicienne et psychanalyste, qui elle voyait bien chez ses patients que le confinement perturbait la vie onirique de ces patients au quotidien. Il m'a dit, bon, pas le moment de faire quelque chose, parce qu'il y a un grand remuement psychologique, psychique, là, qui est à l'œuvre. Et puis moi, l'historien que j'étais, je dis, bon, il faut qu'on archive ça, parce que là, je m'y mettais, l'historien de 2100 ou 2150 sera content d'avoir une trace de ce qui est en train de se passer. Et donc, on s'est mis, voilà, nous serions à archiver ces récits de rêves, sachant pas tout de suite ce qu'on allait en faire, mais en se disant, voilà, ça, il faut faire trace, il faut provoquer la trace, et puis essayer de comprendre comment, voilà, un événement collectif, un événement historique aussi puissant allait bouleverser la vie psychique la plus intime des sujets.
Peut-être aussi parce que nos nuits étaient plus passionnantes que nos jours à ce moment-là.
Sans doute aussi, ouais. C'était comme un grand refuge pour un grand refuge pour l'imaginaire
pour
essayer de sortir de chez nous et notamment à la fin, les rêves érotiques se sont réinvités surtout sur les dernières semaines.
Ah oui. Hein,
comme une espèce de d'espace.
C'est pas la peur que les gens pouvaient avoir au début avant de vous raconter et finalement
peut-être,
à la fin.
Peut-être que c'est ça.
Bon,
mais
déjà
au début
tout
quand même, c'était des rêves surtout de mort, de pénurie. D'angoisse du toucher aussi.
Des rêves de joie, finalement.
Du toucher. Ça, c'est les premiers rêves qu'on a eus. C'était vraiment la grande anxiété.
Alors, une fois, on se racontait des rêves avec des collègues et il y a une collègue qui s'est retournée un peu choquée c'était pas Marine Abaousson qui me raconte tous ses rêves, en nous disant qu'elle trouvait ça beaucoup trop intime, en fait, voire un peu exhibitionniste de faire ça, de raconter ses rêves en public, comme si tout d'un coup c'était mis tout nu dans l'open space. Vous l'avez rencontré, cette pudeur?
Oui, bien sûr. Il y a des gens qui étaient un peu gênés de nous écrire en disant, je suis désolé de vous déranger avec ma petite vie intime, mes rêves un peu banals et tout ça. Et puis il y en a qui étaient au contraire complètement exhibitionnistes et qui, donc ça fait drôle. Parfois, vous voyez au matin, vous prenez votre café, puis vous recevez des rêves plutôt corsés, les récits de rêves sans trop de précaution, que vous recevez comme ça dans votre boîte mail. Ça fait un peu étrange. Mais l'idée que c'est quelque chose d'intime, c'est une idée très européenne, très occidentale, parce qu'en fait, quand on regarde dans d'autres cultures ou même à d'autres époques, le rêve n'a pas nécessairement c'est pas nécessairement le refuge de l'intime, c'est pas nécessairement
de l'inconscient,
ce qui est plus subjectif, ce qui est de plus individuel dans l'individu. Il y a des époques où justement, ou d'autres lieux où quand on a rêvé, en fait, on doit le dire aux autres parce qu'en fait, c'est le destin de la communauté tout entière qui dépend du rêve. Et en fait, c'est vraiment pour l'Europe, c'est au 19e siècle que les choses changent, avec Freud notamment qui nous fait penser que le rêve permet la résurrection de passés infantiles, traumatiques, vraiment très personnel. Mais jusque-là, dans ce qu'on appelle l'ancien régime du rêve, le rêve, c'était avant tout l'annonce de l'avenir, un présage historique, quelque chose qui nous projetait dans le futur.
J'aime bien que vous appeliez ça l'ancien régime du rêve, comme si c'était vraiment un truc historique, vraiment très très affirmé. Avant vous, il y a une proche d'Anna Arendt qui s'était déjà lancée dans une collecte de rêves sous le régime hitlérien. C'est consigné ça dans le livre Rêver sous le Troisième Reich. Ça racontait quoi, les rêves sous le Troisième Reich?
C'est un livre important, je l'avais en tête quand j'ai lancé la collecte, c'est le livre de Charlotte Bérard. Et Charlotte Bérard a imaginé cette collecte dans les années 30. Je crois qu'elle en a collecté entre 33 et 39, donc avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est comme un acte de résistance un peu. Et elle a réussi à collecter des rêves à travers toute la société allemande du temps. C'est-à-dire qu'il y a des rêves de femmes de ménage, de grands patrons, d'ouvriers, etc. Enfin, elle a réussi à... 300 récits, c'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose. Et ça témoigne surtout de la manière, du retentissement émotionnel du politique, au fond. Jusque dans la vie, les gens rêvaient que les murs de leur maison s'effondraient, qu'ils étaient sur écoute en permanence. Et donc, la terreur, au fond, du régime hitlérien venait s'insinuer jusque dans la vie onirique des Allemands de ce temps-là. Et ça témoigne de ça. C'est très précieux comme livre.
Est-ce qu'il y avait des tendances récurrentes dans les rêves qu'on vous a confiés? Genre, si Beth Ndiaye disait que c'était bien trop compliqué de mettre un masque et qu'elle le ferait jamais. Roselyne Bachelot qui hurlait qu'elle lui avait dit qu'il fallait garder du stock.
Oui, c'est ça qui est amusant. C'est à la fois toujours très singulier. Ça vient quand même, il y a la partie la plus intime, l'histoire qu'a fait chacun d'entre nous, qui est différente. Et en même temps, il y a des airs de famille, des résonances entre les rêves. Il y a eu pas mal de choses. Je vous en parlais, hein, les rêves de l'angoisse du toucher, très fort. Les rêves des anciens qu'on n'a pas pu accompagner dans le deuil. Hein, les âgés sont très présents, les vieux sont très présents dans les rêves. Parce que ça a été quand même une des grandes ruptures. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas pu accompagner leur mort sereinement. Donc ça, c'est très présent.
Peut-être des gens décédés qui viennent voir les gens.
Absolument. Vous avez aussi des rêves, ça c'est très intéressant. C'est la catastrophe de référence, ça restait la Seconde Guerre mondiale. Et donc la Seconde Guerre mondiale est très présente dans les rêves. Des hôpitaux qui. Alors la plupart des gens ne l'ont pas connu, mais c'est une mémoire filmique en fait qui est à l'œuvre. Et donc les gens rêvent de beaucoup d'hôpitaux, mais les hôpitaux se transforment en camps de concentration. Ou alors beaucoup de rêves de train. Il y a un rêve qui m'a vraiment bouleversé d'une femme qui se retrouve dans un train avec sa valise. Et puis le train. Voilà, il y a une voix qui dit voilà, pas d'arrêt jusqu'à la destination finale, elle ne sait pas où elle va. Et à chaque station, hein, mais le train ne prend personne, elle voit un membre de sa famille. Sa mère d'abord avec une valise, puis sa fille, puis son fils. Et elle ne peut pas ouvrir les fenêtres et elle est bloquée dans son train et elle sait qu'elle ne les reverra pas. Et ça, c'est un rêve, voilà. Mais c'est un rêve très typique
de
la période. Ouais. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui affleure. Et puis au fil des semaines, on sent quand même une forme. Alors il y a des rêves des rêves d'îles paradisiaques perdues sans Covid-19 ou des rêves érotiques, je vous en parlais tout à l'heure. Peut-être, alors est-ce que les gens ont commencé à les exprimer davantage? Il y a des rêves érotiques avec les voisins, c'est-à-dire des gens avec qui les. Ça, c'est très amusant. Les gens, je n'imaginais pas nécessairement avoir des relations avec ses voisins, mais là, à la fin du confinement, au bout de 6 semaines, tout d'un coup, les choses changent.
Vivre, tu peux te dire, il se passe quelque
donc, chose. Donc voilà, oui, il y a des points communs comme ça qu'on peut repérer, malgré la singularité, évidemment, de chaque individu, au final.
Thury, vous vous souvenez de vos rêves confinés, vous? Parce que vous avez recommencé à écrire pendant le confinement, c'est là que vous vous êtes remis dans la musique, ça a peut-être un lien.
Oui, carrément. Mais là, quand même, j'ai envie de poser une question. Parce que j'ai rêvé que je me mariais avec Laura Felpin.
Pendant le confinement ou dernièrement?
Dernièrement. D'accord. Je suis désolé, j'ai zappé. Mais...
Coucou Laura Felpin, j'espère que vous êtes
gros
à notre
bisous.
Écoute.
Voilà. Et j'espère que... Bon.
Vous pouvez espérer que c'est prémonitoire.
J'espère
donc
que c'est prémonitoire.
Si vous voulez, moi j'ai son numéro. Hein, on peut
Allez, c'est parti.
Mais attention, Rêve. Laura Felpin, si tu nous écoutes, c'est un bad boy. Rêve. Vraiment, c'est pas à qui tu crois en écoutant ses chansons.
Mais la rédemption est peut-être là.
Peut-être la rédemption, c'est Laura Felpin.
En tout cas, c'est un appel très très clair. Et alors, quand on a un passé, pardon, je vais être beaucoup moins feel good tout d'un coup. Quand on a un passé un peu traumatisant comme le vôtre, Thury, avec une enfance abîmée, est-ce qu'on a peur de ses rêves?
Non, pas tellement. Moi, vraiment, ça a été plus tard, ça a été lié à ma grand-mère. Donc, merci du coup pour la réponse et merci les filles pour cette invité de qualité. Je comprends mieux parce que j'ai pas pu lui dire au revoir comme je voulais. J'étais très loin. Donc maintenant, je comprends mieux.
C'est des deuils très difficiles, hein, quand on est séparé des corps, qu'on les a pas vus ou qu'on n'a pas pu les accompagner. C'est des deuils qui sont interminables, presque. Enfin, qui sont très douloureux, plus que les autres encore.
Voilà, c'est ce que je disais.
Et justement, du coup, Hervé Mazurel, vous avez répondu quasiment à la question, je la pose quand même. Est-ce qu'en archivant les rêves des gens, on peut aussi mettre le doigt comme ça sur des traumatismes collectifs, sur des peurs collectives?
C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on peut suivre des transformations historiques sur le long terme. Par exemple, dans ces rêves-là, on ne voit pas d'anges, on ne voit pas de diables, de sorcières. Hein, y a pas, voilà, alors que dans les rêves médiévaux, on en a beaucoup. Hein, voilà, y a tout, donc ça veut dire que l'imaginaire collectif lui-même se transforme. Hein, y a une sorte de laïcisation des rêves qui s'est opérée sur plusieurs siècles, surtout à partir du 19e siècle. Et donc voilà, on rêve pas du tout des mêmes choses qu'il y a 100 ans, 200 ans, et on peut documenter hein, ces mutations de l'imaginaire collectif et la manière dont les fantasmes même hein, sont travaillés par l'histoire collective.
Donc les fantasmes avec les voisins aussi. Attends. Et alors Hervé Mazurel-Thury, si vous pouviez accéder au rêve de quelqu'un que vous regarderiez comme un petit film, ce serait qui? Ne dites pas Laura Felpin-Thury, c'est trop intrusif. C'est trop intrusif.
D'accord.
Pour quelqu'un que vous n'avez pas encore le numéro.
Peut-être... Les rêves d'un Walt Disney ou d'un Kanye West, parce que ce sont des gens qui sont très impressionnants parce qu'ils rêvent éveillés. Alors j'imagine un petit peu ce que ça doit être dans leur sommeil. Ouais.
Et vous, Hervé Mazurel?
Eh bien, moi, je pense que ce serait Arthur Rimbaud. Je suis en train de faire un petit livre d'historien sur Arthur Rimbaud, sur un épisode obscur de sa vie que pas grand monde a commenté, mais je me dis...
C'est quand il révèle Laura Felpin.
Il écrivait des choses tellement dingues, déjà, à l'état éveillé. Oui, dire, qu'est-ce que ça devait donner en songe, quoi. Donc, on a envie d'entrer dans la tête de le petit cinéma intérieur d'Arthur Rimbaud, ça devait être un truc...
Arthur Rimbaud et Kanye West, bienvenue dans vos rêves. Au revoir, Hervé Mazurel, et merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet de collecte de rêves mené, entre autres, par la psychanalyste Elisabeth Serin. Parmi vos dernières publications, je cite entre autres « L'inconscient ou l'oubli de l'histoire », c'est aux éditions La Découverte.